Musset, Pierre et Camille, deuxième partie. Le chevalier avait résolu de s'éloigner sans dire adieu à sa femme. Il craignait et fuyait toute explication fâcheuse, et comme d'ailleurs son destin était de revenir dans peu de temps, il crut agir plus sagement en laissant seulement une lettre. Il n'était pas tout à fait vrai que ses affaires l'appelassent en Hollande. Cependant, son voyage pouvait lui être avantageux. Un de ses amis écrivit à Chardonneux pour presser son départ. C'était un prétexte convenu. Il prit en rentrant le semblant d'un homme obligé de s'en aller à l'improviste. Il fit faire ses paquets en toute hâte, les envoya à la ville, monta à cheval et partit. Une hésitation involontaire et un très grand regret s'emparèrent cependant de lui lorsqu'il franchit le seuil de sa porte. Il craignit d'avoir obéi trop vite à un sentiment qu'il pouvait maîtriser, de faire verser à sa femme des larmes inutiles et de ne pas trouver ailleurs le repos qu'il ôtait peut-être à sa maison. « Mais qui sait, pensa-t-il, si je ne fais pas au contraire une chose utile et raisonnable? Qui sait si le chagrin passager que pourra causer mon absence ne nous rendra pas des jours plus heureux. Je suis frappé d'un malheur dont Dieu seul connaît la cause. Je m'éloigne pour quelques jours du lieu où je souffre. Le changement, le voyage, la fatigue même calmeront peut-être mes ennuis. Je vais m'occuper de choses matérielles, importantes, nécessaires. Je reviendrai le cœur plus tranquille, plus content. J'aurai réfléchi, je saurai mieux ce que j'ai à faire. Cependant, Cécile va souffrir, se disait-il au fond du cœur. Mais, son parti une fois pris, il continua sa route. Madame des Arcis avait quitté le bal vers 11 heures. Elle était montée en voiture avec sa fille, qui s'endormit bientôt sur ses genoux. Bien qu'elle ignorât que le chevalier eût exécuté si promptement son projet de voyage, elle n'en souffrait pas moindre de sortie seule de chez ses voisins. Ce qui n'est aux yeux du monde qu'un manque d'égard devient une douleur sensible à qui en soupçonne le motif. Le chevalier n'avait pu supporter le spectacle public de son malheur. La mère avait voulu montrer ce malheur pour tâcher de le vaincre et d'en avoir raison. Elle eût aisément pardonné à son mari un mouvement de tristesse ou de mauvaise humeur. Mais il faut penser qu'en province, une telle manière de laisser ainsi sa femme et sa fille est une chose presque inouïe. Et la moindre bagatelle en pareil cas, seulement un manteau qu'on cherche lorsque celui qui devrait la porter n'est pas là, a fait quelquefois plus de mal que tout le respect des convenances ne saurait faire de bien. Tandis que la voiture se traînait lentement sur les cailloux d'un chemin vicinal nouvellement fait, Madame des Arcis, regardant sa fille endormie, se livrait au plus triste pressentiment. Soutenant Camille de façon à ce que les chaos ne puissent l'éveiller, elle songeait avec cette force que la nuit donne à la pensée à la fatalité qui semblait la poursuivre juste dans cette joie légitime qu'elle venait d'avoir à ce bal. Une étrange disposition d'esprit la faisait se reporter tour à tour, tantôt vers son propre passé, tantôt vers l'avenir de sa fille. « Que va-t-il arriver ?» se disait-elle. « Mon mari s'éloigne de moi. S'il ne part pas aujourd'hui pour toujours, ce sera demain. Tous mes efforts, toutes mes prières ne serviront qu'à l'importuner. Son amour est mort, sa pitié subsiste, mais son chagrin est plus fort que lui et que moi-même. Ma fille est belle, mais vouée au malheur. » Qui puis-je faire? Que puis-je prévoir ou empêcher? Si je m'attache à cette pauvre enfant comme je le dois, comme je le fais, C'est presque renoncer à voir mon mari. Il nous fuit, nous lui faisons horreur. Si je tentais, au contraire, de me rapprocher de lui, si j'osais essayer de rappeler son ancien amour, ne me demanderait-il pas peut-être de me séparer de ma fille? Ne pourrait-il pas se faire qu'il voulût confier Camille à des étrangers et se délivrer d'un spectacle qui l'afflige? En se parlant ainsi à elle-même, Madame des Arcis embrassait Camille. « Pauvre enfant, se disait-elle, moi t'abandonner, moi acheter au prix de ton repos, de ta vie peut-être, l'apparence d'un bonheur qui me fuirait à mon tour, cesser d'être mère pour être épouse. Mais quand une pareille chose serait possible, ne vaut-il pas mieux mourir que d'y songer ?» Puis elle revenait à ses conjectures. « Oh, que va-t-il arriver ?» se demandait-elle encore. « Qu'ordonnera de nous la Providence ? Dieu veille sur tous, il nous voit comme les autres. Que fera-t-il de nous ? Que deviendra cet enfant ?» À quelque distance de Chardonneux, il y avait un gué à passer. Il avait beaucoup plu depuis un mois à peu près, en sorte que la rivière débordait et couvrait les prés d'alentour. Le passeux refusa d'abord de prendre la voiture dans son bac et dit qu'il fallait dételer, qu'il se chargeait de traverser l'eau avec les gens et le cheval, mais non avec le carrosse. Madame des Arcis, pressée de revoir son mari, ne voulut pas descendre. Elle dit au cocher d'entrer dans le bac. C'était un trajet de quelques minutes qu'elle avait fait 100 fois. Au milieu du gué, le bateau commença à dévier, poussé par le courant. Le passeux demanda aide au cocher pour empêcher, disait-il, d'aller à l'écluse. Il y avait en effet, à 200 ou 300 pas plus loin, un moulin avec une écluse, faite de soliveaux, de pieux et de planches rassemblées, mais vieille, brisée par l'eau et devenue une espèce de cascade, ou plutôt de précipice. Il était clair que si l'on se laissait entraîner jusque-là, on devait s'attendre à un accident terrible. Le cocher était descendu de son siège. Il aurait voulu être bon à quelque chose, mais il n'y avait qu'une perche dans le bac. Le passeux, de son côté, faisait ce qu'il pouvait, mais la nuit était sombre. Une petite pluie fine aveuglait ces deux hommes, qui tantôt se relayaient et tantôt réunissaient leurs forces pour couper l'eau et gagner la rive. À mesure que le bruit de l'écluse se rapprochait, le danger devenait plus effrayant. Le bateau, lourdement chargé et défendu contre le courant par deux hommes vigoureux, n'allait pas vite. Lorsque la perche était bien enfoncée et bien tenue à l'avant, le bac s'arrêtait, allait de côté ou tournait sur lui-même, mais le flot était trop fort. Madame des Arcis, qui était restée dans la voiture avec l'enfant, ouvrit la glace avec une terreur affreuse. « Est-ce que nous sommes perdus ? » s'écria-t-elle. En ce moment, la perche rompit. Les deux hommes tombèrent dans le bateau, épuisés et les mains meurtries. Le passeux savait nager, mais non le cocher. Il n'y avait pas de temps à perdre. « Père Georgeot, dit Madame des Assises au passeux, c'était son nom, « peux-tu me sauver, ma fille et moi ?» Le père Georgeot jeta un coup d'œil sur l'eau, puis sur la rive. « Certainement, répondit-il en haussant les épaules d'un air presque offensé, qu'on lui adressa une pareille question. « Mais que faut-il faire ? » dit Madame des Arcis. « Vous mettez sur mes épaules, répliqua le passeux. « Gardez votre homme, ça vous soutiendra. Empeignez-moi le cou à deux bras, mais N'ayez pas peur, eh, vous comprenez pas, nous serions noyés. Ne criez pas, ça nous ferait boire. Quant à la petite, oh, je la prendrai d'une main par la taille, je lâcherai de l'autre à la marinière, et je la passerai en l'air sans la mouiller. Il n'y a pas 25 brasses d'ici aux pommes de terre qui sont dans ce champ-là. Et Jean, dit Madame des Arcis, désignant le cocher, oh, Jean boira un coup, mais il en reviendra. Qu'il aille à l'écluse et qu'il attende, je le retrouverai. Le père Georgeot s'élança dans l'eau, chargé de son double fardeau, mais il avait trop préjugé de ses forces. Il était plus jeune, tant s'en fallait. La rive était plus loin qu'il ne disait, et le courant plus fort qu'il ne l'avait pensé. Il fit cependant tout ce qu'il put pour arriver à terre, mais il fut bientôt entraîné. Le trot d'un saule couvert par l'eau, et qu'il ne pouvait voir dans les ténèbres, l'arrêta tout à coup. Il s'y était violemment frappé au front. Son sang coula, sa vue s'obscurcit. Prenez votre fille et mettez-la sur mon cou, dit-il, ou sur le vôtre, je n'en puis plus. Mais pourrais-tu la sauver si tu ne portais qu'elle ? Demanda la mère. Bon, c'est rien, mais je crois que oui, dit le passeux. Madame des Arcis, pour toute réponse, ouvrit les bras, lâcha le cou du passeux et se laissa aller au fond de l'eau. Lorsque le passeux eut déposé à terre la petite Camille, saine et sauve, le cocher, qui avait été tiré de la rivière par un paysan, l'aida à chercher le corps de Madame des Arcis, et on ne le trouva que le lendemain matin, près du rivage. Un an après cet événement, dans une chambre d'un hôtel garni situé rue du Boulois à Paris, dans le quartier des Diligences, une jeune fille en deuil était assise près d'une table, au coin du feu. Sur cette table était une bouteille de vin, d'ordinaire à moitié vide, et un verre. Un homme, courbé par l'âge, mais d'une physionomie ouverte et franche, vêtu à peu près comme un ouvrier, se promenait à grands pas dans la chambre. De temps en temps, il s'approchait de la jeune fille, s'arrêtait devant elle et la regardait d'un air presque paternel. La jeune fille, alors, étendait le bras, soulevait la bouteille avec un empressement mêlé d'une sorte de répugnance involontaire et remplissait le verre. Le vieillard buvait un petit coup, puis recommençait à marcher tout en gesticulant d'une façon singulière et presque ridicule, pendant que la jeune fille, souriant d'un air triste, suivait ses mouvements avec attention. Il eût été difficile à qui se fût trouvé là de deviner quelles étaient ces deux personnes. L'une immobile, froide, pareille au marbre, mais pleine de grâce et de distinction, portant sur son visage et dans ses moindres gestes plus que ce qu'on appelle ordinairement la beauté, et l'autre d'une apparence tout à fait vulgaire, les habits en désordre, le chapeau sur la tête, buvant du gros vin de cabaret et faisant résonner sur le parquet les clous de ses souliers. C'était un étrange contraste. Ces deux personnes, pourtant liées, était par une amitié bien vive et bien tendre. C'était Camille et l'oncle Giraud. Le digne homme était venu à Chardonneux lorsque Madame des Arcis avait été portée d'abord à l'église, puis à sa dernière demeure. Sa mère étant morte et son père absent, la pauvre enfant se trouvait alors absolument seule en ce monde. Le chevalier ayant une fois quitté sa maison, Distrait par son voyage, appelé par ses affaires, et obligé de parcourir plusieurs villes de la Hollande, n'avait appris que fort tard la mort de sa femme, en sorte qu'il se passa près d'un mois, pendant lequel Camille resta, pour ainsi dire, orpheline. Il y avait bien, il est vrai, à la maison, une sorte de gouvernante qui avait charge de veiller sur la jeune fille. Mais la mère de son vivant ne souffrait point de partage. Cet emploi était une sinécure. La gouvernante connaissait à peine Camille et ne pouvait lui être d'aucun secours dans une pareille circonstance. La douleur de la jeune fille à la mort de sa mère avait été si violente qu'on avait craint longtemps pour ses jours. Lorsque le corps de Madame des Arcis avait été retiré de l'eau et apporté à la maison, Camille accompagnait ce cortège funèbre en poussant des cris de désespoir si déchirants que les gens du pays en avaient presque peur. Il y avait en effet je ne sais quoi d'effrayant dans cet être qu'on était habitué à voir muet, doux et tranquille, et qui sortait tout à coup de son silence en présence de la mort. Les sons inarticulés qui s'échappaient de ses lèvres, et qu'elle seule n'entendait pas, avaient quelque chose de sauvage. Ce n'étaient ni des paroles, ni des sanglots, mais une sorte de langage horrible qui semblait inventé par la douleur. Pendant un jour et une nuit, ces cris affreux ne cessèrent de remplir la maison. Camille courait de tous côtés, s'arrachant les cheveux et frappant les murailles. On essaya en vain de l'arrêter. La force même fut inutile. Ce ne fut que la nature épuisée et qui la fit enfin tomber au pied du lit où le corps de sa mère était couché. Presque aussitôt, elle avait paru reprendre sa tranquillité accoutumée, et pour ainsi dire, tout oublié. Elle était restée quelque temps dans un calme apparent, marchant toute la journée, au hasard, d'un pas lent et distrait, ne se refusant à aucun des soins qu'on prenait pour elle, et on la croyait revenue à elle-même. Et le médecin, qui avait été appelé, s'y trompa comme tout le monde. Mais une fièvre nerveuse se déclara bientôt avec les plus graves symptômes. Il fallut veiller constamment sur la malade. Sa raison semblait entièrement perdue. C'était alors que l'oncle Giraud avait pris la résolution de venir à tout prix au secours de sa nièce. Puisqu'elle n'a plus ni père ni mère dans ce moment-ci, avait-il dit aux gens de la maison. Je me déclare, pour son oncle véritable, chargé de la soigner et d'empêcher qu'il ne lui arrive malheur. Cette enfant m'a toujours plu. J'ai souvent demandé à son père de me la donner pour me faire rire. Je veux pas l'en priver, c'est sa fille, mais pour l'instant, je m'en empare. À son retour, je la lui rendrai fidèlement. L'oncle Giraud n'avait pas grande foi au médecin, pour une assez bonne raison. C'est qu'il croyait à peine aux maladies, n'ayant jamais lui-même été malade. Une fièvre nerveuse, surtout, lui paraissait une chimère, un pur dérangement d'idées, qu'un peu de distraction devait guérir. Il s'était donc décidé à amener Camille à Paris. Vous voyez, disait-il encore, qu'elle a du chagrin, cette enfant. Elle ne fait que pleurer, et elle a raison. Une mère ne vous meurt pas deux fois. Mais il ne s'agit pas que la fille s'en aille parce que l'autre vient de partir. Il faut tâcher qu'elle pense à autre chose. On dit que Paris est très bon pour cela. Je connais point Paris, moi, ni elle non plus. Ainsi donc, je vais l'y mener. Cela nous fera du bien à tous les deux. D'ailleurs, quand ce ne serait que la route, ça ne peut que lui être très bon. J'ai eu de la peine comme un autre. et toutes les fois que j'ai vu sautiller devant moi la queue d'un postillon, ah, cela m'a toujours regaillardi. De cette façon, Camille et son oncle étaient venus à Paris. Le chevalier, instruit de ce voyage par une lettre de l'oncle Giraud, l'approuva. Au retour de sa tournée en Hollande, il avait rapporté à Chardonneux une mélancolie tellement profonde qu'il lui était presque impossible de voir qui que ce fût, même sa fille. Il semblait vouloir fuir tout être vivant et chercher à se fuir lui-même. Presque toujours seul, à cheval, dans les bois, il fatiguait son corps outre mesure pour donner quelque repos à son âme. Un chagrin caché, incurable, le dévorait. Il se reprochait au fond du cœur d'avoir rendu sa femme malheureuse pendant sa vie et d'avoir contribué à sa mort. « Si j'avais été là, se disait-il, elle vivrait, et je devais y être. » Cette pensée qui ne le quittait plus empoisonnait sa vie. Il désirait que Camille fût heureuse. Il était prêt, dans l'occasion, à faire pour cela les plus grands sacrifices. Sa première idée, en revenant à Chardonneux, avait été d'essayer de remplacer près de sa fille celle qui n'était plus et de payer avec usure cette dette de cœur qu'il avait contractée. Mais le souvenir de la ressemblance de la mère et de l'enfant lui causait à l'avance une douleur intolérable. C'était en vain qu'il cherchait à se tromper sur cette douleur même, et qu'il voulait se persuader que ce serait plutôt à ses yeux une consolation, un adoucissement à sa peine, de retrouver ainsi sur un visage aimé les traits de celle qu'il pleurait sans cesse. Camille, malgré tout, était pour lui un reproche vivant, une preuve de sa faute et de son malheur, qu'il ne se sentait pas la force de supporter. L'oncle Giraud n'en pensait pas si long. Il ne songeait qu'à égayer sa nièce et à lui rendre la vie agréable. Malheureusement, ce n'était pas facile. Camille s'était laissée emmener sans résistance, mais elle ne voulait prendre part à aucun des plaisirs que le bonhomme tâchait de lui proposer. Ni promenade, ni fête, ni spectacle ne pouvaient la tenter. Pour toute réponse, elle montrait sa robe noire. Le vieux maître maçon était obstiné. Il avait loué, comme on l'a vu, un appartement garni dans une auberge des messageries, la première qu'un commissionnaire de la rue lui avait indiquée, ne comptant y rester qu'un mois ou deux. Il y était avec Camille depuis près d'un an. Pendant un an, Camille s'était refusé à toutes ses propositions de parties de plaisir, et comme il était en même temps aussi bon et aussi patient qu'entêté, il attendait depuis un an sans se plaindre. Il aimait cette pauvre fille de toute son âme, sans qu'il en sût lui-même la cause par un de ces charmes inexplicables qui attachent la bonté au malheur. « Mais enfin, je sais pas, disait-il, tout en achevant sa bouteille, ce qui peut t'empêcher de venir à l'opéra avec moi. Cela coûte fort cher. J'ai le billet dans ma poche, voilà ton deuil fini d'hier. T'as là deux robes neuves, d'ailleurs, t'as qu'à mettre ton capuchon et... » Il s'interrompit. « Oh, diable, dit-il, ouais, tu n'entends rien, j'y avais pas pensé. » « Mais qu'importe, c'est pas nécessaire dans ces endroits-là. T'entends pas, moi, j'écoute pas. Nous regardons danser, voilà tout. » Ainsi parlait le bon oncle, qui ne pouvait jamais songer, quand il avait quelque chose d'intéressant à dire, que sa nièce ne pouvait l'entendre ni lui répondre. Il causait avec elle, malgré lui. D'une autre part, quand il essayait de s'exprimer par signes, c'était encore pire, elle le comprenait encore moins. Aussi avait-il adopté l'habitude de lui parler, comme à tout le monde, en gesticulant, il est vrai, de toutes ses forces. Camille s'était faite à cette pantomime parlante et trouvait moyen d'y répondre à sa façon. Le deuil de Camille venait de finir en effet, comme le disait le bonhomme. Il avait fait faire deux belles robes à sa nièce et les lui présentait d'un air à la fois si tendre et si suppliant qu'elle lui sauta au cou pour le remercier, puis elle se rassit avec la tristesse calme qu'on lui voyait toujours. Mais c'est pas tout, dit l'oncle, il faut les mettre, ces belles robes. Elles sont faites pour cela, ces robes. Elles sont jolies, ces robes. Et tout en parlant, il se promenait par la chambre en faisant danser les robes comme des marionnettes. Camille avait assez pleuré pour qu'un moment de joie lui fût permis. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle se leva, se plaça devant son miroir, prit une des deux robes que son oncle lui montrait, la regarda tendrement, lui tendit la main et fit un petit signe de tête pour dire oui. À ce signe, le bonhomme Giraud se mit à sauter comme un enfant avec ses gros souliers. Il triomphait. L'heure était enfin venue où il accomplissait son dessein. Camille allait se parer, sortir avec lui, venir à l'opéra, voir le monde. Il ne se tenait pas d'aise à cette pensée, et il embrassait sa nièce coup sur coup, tout en criant après la femme de chambre, les domestiques, tous les gens de la maison. La toilette achevée, Camille était si belle qu'elle sembla le reconnaître elle-même et sourit à sa propre image. La voiture est en bas, dit l'oncle Giraud, tâchant d'imiter avec ses bras le geste d'un cocher qui fouette ses chevaux et avec sa bouche le bruit d'un carrosse. Camille sourit de nouveau, prit la robe de deuil qu'elle venait de quitter, la plia avec soin, la baisa, la mit dans l'armoire et partit. Si l'oncle Giraud n'était pas élégant de sa personne, il se piquait du moins de bien faire les choses. Peu lui importait que ses habits, toujours tout neufs et beaucoup trop larges, parce qu'il ne voulait pas être gêné, l'enveloppassent comme bon leur semblait, que ses bras drapés fussent mal tirés et que sa perruque lui tombât sur les yeux. Mais quand il se mêlait de régaler les autres, il prenait d'abord ce qu'il y avait de plus cher et de meilleur. Aussi avait-il retenu ce soir-là, pour lui et pour Camille, une bonne loge découverte, bien en évidence, afin que sa nièce pût être vue de tout le monde. Au premier regard que Camille jeta sur le théâtre et dans la salle, elle fut éblouie. Cela ne pouvait manquer. Une jeune fille à peine âgée de 16 ans, élevée au fond d'une campagne, et se trouvant tout à coup transportée au milieu du séjour, du luxe, des arts et du plaisir, devait presque croire qu'elle rêvait. On jouait un ballet. Camille suivait avec curiosité les attitudes, les gestes et les pas des acteurs. Elle comprenait que c'était une pantomime, et comme elle devait s'y connaître, elle cherchait à s'en expliquer le sens. À tout moment, elle se retournait vers son oncle d'un air stupéfait, comme pour le consulter. Mais il n'y comprenait guère plus qu'elle. Elle voyait des bergers en bas de soie offrant des fleurs à leurs bergères, des amours voltigeant au bout d'une corde, des dieux assis sur des nuages. Les décorations, les lumières, le lustre surtout, dont l'éclat la charmait, Les parures des femmes, les broderies, les plumes, toute cette pompe d'un spectacle inconnu pour elle, la jetaient dans un doux étonnement. De son côté, elle devint bientôt elle-même l'objet d'une curiosité presque générale. Sa parure était simple, mais du meilleur goût. Seule, en grande loge, à côté d'un homme aussi peu musqué que l'était l'oncle Giraud, belle comme un astre et fraîche comme une rose, avec ses grands yeux noirs et son air naïf, elle devait nécessairement attirer les regards. Les hommes commencèrent à se la montrer, les femmes à l'observer, les marquis s'approchèrent, et les compliments les plus flatteurs, faits à haute voix à la mode du temps, furent adressés à la nouvelle venue. Par malheur, l'oncle Giraud seul recueillait ses hommages, qu'il savourait avec délices. Cependant, Camille, peu à peu, reprit d'abord son air tranquille, puis un mouvement de tristesse la saisit. Elle sentit combien il était cruel d'être isolée au milieu de cette foule. Ces gens qui causaient dans leur loge, ces musiciens dont les instruments réglaient la mesure des pas des acteurs, ce vaste échange de pensées entre le théâtre et la salle, tout cela, pour ainsi dire, la repoussa en elle-même. « Nous parlons et tu ne parles pas », semblait lui dire tout ce monde. « Nous écoutons, nous rions, nous chantons, nous nous aimons, nous jouissons de tout, et toi seul, tu ne jouis de rien, toi seul n'entends rien. » Toi seul n'es ici qu'une statue, le simulacre d'un être qui ne fait qu'assister à la vie. Camille ferma les yeux pour se délivrer de ce spectacle. Elle se souvint de ce bal d'enfant où elle avait vu danser ses compagnes et où elle était restée près de sa mère. Elle revint par la pensée à la maison natale, à son enfance si malheureuse, à ses longues souffrances, à ses larmes secrètes, à la mort de sa mère, enfin à ce deuil qu'elle venait de quitter et qu'elle résolut de reprendre en rentrant. Puisqu'elle était à jamais condamnée, il lui sembla qu'il valait mieux pour elle ne jamais tenter de moins souffrir. Elle sentit plus amèrement qu'elle ne l'avait encore fait que tout effort de sa part pour résister à la malédiction céleste était inutile. Remplie de cette pensée, elle ne put retenir quelques pleurs que l'oncle Giraud vit couler. Il cherchait à en deviner la cause, lorsqu'elle lui fit signe qu'elle voulait partir. Le bonhomme, surpris et inquiet, hésitait et ne savait que faire. Camille se leva et lui montra la porte de la loge afin qu'il lui donnât son mantelet. En ce moment, elle aperçut au-dessous d'elle, à la galerie, un jeune homme de bonne mine, très richement vêtu, qui tenait à la main un morceau d'ardoise, sur lequel il traçait des lettres et des figures avec un petit crayon blanc. Il montrait ensuite cette ardoise à son voisin, plus âgé que lui. Celui-ci paraissait le comprendre aussitôt, et lui répondait de la même manière avec une très grande promptitude. Tous deux échangeaient en même temps, en ouvrant ou fermant les doigts, certains signes qui semblaient leur servir à se mieux communiquer leurs idées. Camille ne comprit rien, ni à ces dessins qu'elle distinguait à peine, ni à ces signes qu'elle ne connaissait pas. Mais elle avait remarqué, du premier coup d'œil, que ce jeune homme ne remuait pas les lèvres. Prête à sortir, elle s'arrêta. Elle voyait qu'il parlait un langage qui n'était celui de personne et qu'il trouvait moyen de s'exprimer sans ce fatal mouvement de la parole, si incompréhensible pour elle et qui faisait le tourment de sa pensée. Quel que fût ce langage étrange, une surprise extrême, un désir invincible d'en voir davantage, lui fit reprendre la place qu'elle venait de quitter. Elle se pencha au bord de la loge et observa attentivement ce que faisait cet inconnu. Le voyant de nouveau écrire sur l'ardoise et la présenter à son voisin, Elle fit un mouvement involontaire comme pour la saisir au passage. À ce mouvement, le jeune homme se retourna et regarda Camille à son tour. À peine leurs yeux se furent-ils rencontrés, qu'ils restèrent tous deux, d'abord immobiles et indécis, comme s'ils eussent cherché à se reconnaître, puis en un instant ils se devinèrent et se dirent d'un regard « Mais nous sommes muets tous les deux !» L'oncle Giraud apportait à sa nièce son mantelet, sa canne et son loup, mais elle ne voulut plus s'en aller. Elle avait repris sa chaise et resta accoudée sur la balustrade. L'abbé de l'Épée venait alors de commencer à se faire connaître. Faisant une visite à une dame dans la rue des Fossés-Saint-Victor, touché de pitié pour deux sourds muettes qu'il avait vues par hasard travailler à l'aiguille, la charité qui remplissait son âme s'était éveillée tout à coup et opérait déjà des prodiges. Dans la pantomime informe de ces êtres misérables et méprisés, il avait trouvé les germes d'une langue féconde, qu'il croyait pouvoir devenir universelle, plus vraie en tout cas que celle de Leibniz. Comme la plupart des hommes de génie, il avait peut-être dépassé son but, le voyant trop grand. Mais c'était déjà beaucoup d'en voir la grandeur. Quelle que pût être l'ambition de sa bonté, il apprenait aux sourds-muets à lire et à écrire. Il les replaçait au nombre des hommes. Seul et sans aide, par sa propre force, il avait entrepris de faire une famille de ces malheureux, et il se préparait à sacrifier à ce projet sa vie et sa fortune, en attendant que le roi jetât les yeux sur eux. Le jeune homme assis près de la loge de Camille était un des élèves formés par l'abbé. Né gentilhomme et d'une ancienne maison, doué d'une vive intelligence, mais frappé de la demi-mort, comme on disait alors, il avait reçu, l'un des premiers, la même éducation à peu près que le célèbre comte de Solar, avec cette différence qu'il était riche et qu'il ne courait pas le risque de mourir de faim, faute d'une pension du duc de Penthièvre. Indépendamment des leçons de l'abbé, on lui avait donné un gouverneur qui, étant une personne laïque, pouvait l'accompagner partout, chargé bien entendu de veiller sur ses actions et de diriger ses pensées. C'était le voisin qui lisait sur l'ardoise. Le jeune homme profitait avec grand soin et grande application de ses études journalières qui exerçaient son esprit sur toutes choses, à la lecture comme au manège, à l'opéra comme à la messe. Cependant, un peu de fierté native et une indépendance de caractère très prononcée luttaient en lui contre cette application pénible. Il ne savait rien des mots qui auraient pu l'atteindre s'il fût né dans une classe inférieure ou seulement, comme Camille, dans un autre lieu qu'à Paris. L'une des premières choses qu'on lui avait apprises, lorsqu'il avait commencé à épeler, avait été le nom de son père, le marquis de Mowbray. Il savait donc qu'il était à la fois différent des autres hommes par le privilège de la naissance et par une disgrâce de la nature. L'orgueil et l'humiliation se disputaient ainsi un noble esprit qui, par bonheur ou peut-être par nécessité, n'en était pas moins resté simple. Ce marquis sourd-muet, observant et comprenant les autres, aussi fier que tous, et qui avait aussi, auprès de son gouverneur, sur les grands parquets de Versailles, traîné ses talons rouges à fleur de terre, selon l'usage, était lorgné par plus d'une jolie femme. Mais il ne quittait pas des yeux Camille. De son côté, elle le voyait très bien, sans le regarder davantage. L'opéra fini, elle prit le bras de son oncle, et n'osant pas se retourner, rentra pensive. Il va sans dire que ni Camille ni l'oncle Giraud ne savaient seulement le nom de l'abbé de l'Épée. Encore moins se doutaient-ils de la découverte d'une science nouvelle qui faisait parler les muets. Le chevalier aurait pu connaître cette découverte. Sa femme l'eût certainement connue si elle eût vécu. Mais Chardonneux était loin de Paris. Le chevalier ne recevait pas la Gazette, ou s'il la recevait, ne la lisait pas. Ainsi, quelques lieues de distance, un peu de paresse ou la mort, peuvent produire le même résultat. Revenu au logis, Camille n'avait plus qu'une idée. Ce que ses gestes et ses regards pouvaient dire, elle l'employa pour expliquer à son oncle qu'il lui fallait avant tout une ardoise et un crayon. Le bonhomme Giraud ne fut point embarrassé par cette demande, bien qu'elle lui fût adressée un peu tard, car il était temps de souper. Il courut à sa chambre et, persuadé qu'il avait compris, il rapporta en triomphe à sa nièce une petite planche et un morceau de craie, relique précieuse de son ancien amour pour la bâtisse et la charpente. Camille n'eut pas l'air de se plaindre de voir son désir rempli de cette façon. Elle prit la planchette sur ses genoux et fit asseoir son oncle à côté d'elle. Puis elle lui fit prendre la craie et lui saisit la main comme pour le guider, en même temps que ses regards inquiets s'apprêtaient à suivre ses moindres mouvements. L'oncle Giraud comprenait bien qu'elle lui demandait qu'à décrire quelque chose, mais quoi? Il l'ignorait. « Est-ce le nom de ta mère? Est-ce le mien? Est-ce le tien ?» Et pour se faire comprendre, il frappa du bout du doigt, le plus doucement qu'il put, sur le cœur de la jeune fille. Elle inclina aussitôt la tête. Le bonhomme crut qu'il avait deviné. Il écrivit donc en grosses lettres le nom de Camille. Après quoi, satisfait de lui-même et de la manière dont il avait passé sa soirée, le souper étant prêt, il se mit à table, sans attendre sa nièce, qui n'était pas de force à lui tenir tête. Camille ne se retirait jamais que son oncle eût achevé sa bouteille. Elle le regarda prendre son repas, lui souhaita le bonsoir, puis rentra chez elle, tenant sa petite planche entre ses bras. Aussitôt son verrou tiré, elle se mit à son tour à écrire. Débarrassée de sa coiffure et de ses paniers, elle commença à copier, avec un soin et une peine infinie, le mot que son oncle venait de tracer et à barbouiller de blanc une grande table qui était au milieu de la chambre. Après plus d'un essai et plus d'une rature, elle parvint assez bien à reproduire les lettres qu'elle avait devant les yeux. Lorsque ce fut fait et que, pour s'assurer de l'exactitude de sa copie, elle lui comptait une à une les lettres qui lui avaient servi de modèle, elle se promena autour de la table, le cœur palpitant d'aise comme si elle eût remporté une victoire. Ce mot de Camille qu'elle venait d'écrire lui paraissait admirable à voir et devait certainement, à son sens, exprimer les plus belles choses du monde. Dans ce mot seul, il lui semblait voir une multitude de pensées, toutes plus douces, plus mystérieuses, plus charmantes les unes que les autres. Elle était loin de croire que ce n'était que son nom. On était au mois de juillet, l'air était pur et la nuit superbe. Camille avait ouvert sa fenêtre. Elle s'y arrêtait de temps en temps, et là, rêvant, les cheveux dénoués, les bras croisés, les yeux brillants, belle de cette pâleur que la clarté des nuits donne aux femmes, elle regardait l'une des plus tristes perspectives qu'on puisse avoir devant les yeux, l'étroite cour d'une longue maison où se trouvait logée une entreprise de diligence. Dans cette cour froide, humide et malsaine, jamais un rayon de soleil n'avait pénétré. La hauteur des étages, entassés l'un sur l'autre, défendait contre la lumière cette espèce de cave. Quatre ou cinq grosses voitures, serrées sous un hangar, présentaient leurs témoins à qui voulait entrer. Deux ou trois autres, laissés dans la cour, faute de place, semblaient attendre les chevaux, Non, le piétinement dans l'écurie demandait l'avoine du soir au matin. Au-dessus d'une porte, strictement fermée dès minuit pour les locataires, mais toujours prête à s'ouvrir avec bruit à toute heure au claquement du fouet d'un cocher, s'élevaient d'énormes murailles garnies d'une cinquantaine de croisées, où jamais, passé 10 heures, une chandelle ne brillait, à moins de circonstances extraordinaires. Camille allait quitter sa fenêtre quand tout à coup, dans l'ombre que projetait une lourde diligence, il lui sembla voir passer une forme humaine, revêtue d'un habit brillant, se promenant à pas lents. Le frisson de la peur saisit d'abord Camille, sans qu'elle sût pourquoi, car son oncle était là et la surveillance du bonhomme se révélait par son bruyant sommeil. Quelle apparence d'ailleurs qu'un voleur ou un assassin vint se promener dans cette cour en pareil costume. L'homme y était pourtant, et Camille le voyait. Il marchait derrière la voiture, regardant la fenêtre où elle se tenait. Après quelques instants, Camille ressentit revenir son courage. Elle prit sa lumière et, avançant le bras hors de la croisée, éclaira subitement la cour. En même temps, elle y jeta un regard à demi effrayé, à demi menaçant. L'ombre de la voiture s'étant effacée, le marquis de Mowbray, car c'était lui, vit qu'il était complètement découvert, et pour toute réponse, posa un genou en terre, joignant ses mains en regardant Camille, dans l'attitude du plus profond respect. Ils restèrent quelque temps ainsi, Camille à la fenêtre, tenant sa lumière, le marquis à genoux devant elle. Si Roméo et Juliette, qui ne s'étaient vus qu'un soir dans un bal masqué, ont échangé de la première fois tant de serments, fidèlement tenu, que l'on songe à ce que purent être les premiers gestes et les premiers regards de deux amants qui ne pouvaient se dire que par la pensée ces mêmes choses éternelles devant Dieu et que le génie de Shakespeare a immortalisées sur la terre. Il est certain qu'il est ridicule de monter sur 2 ou 3 marchepieds pour grimper sur l'impériale d'une voiture en s'arrêtant à chaque effort qu'on est obligé de faire pour savoir si l'on doit continuer. Il est vrai qu'un homme en bas de soie et en veste brodée risque d'avoir mauvaise grâce lorsqu'il s'agit de sauter de cet impérial sur le rebord d'une croisée. Tout cela est incontestable, à moins qu'on aime. Lorsque le marquis de Mowbray fut dans la chambre de Camille, il commença par lui faire un salut aussi cérémonieux que s'il l'eût rencontré aux Tuileries. S'il avait su parler, peut-être lui eût-il raconté comme quoi il avait échappé à la vigilance de son gouverneur pour venir, au moyen de quelque argent donné à un laquais, passer la nuit sous sa fenêtre, comme quoi il l'avait suivi lorsqu'elle avait quitté l'opéra. Comment un regard d'elle avait changé sa vie entière, comment enfin il n'aimait qu'elle au monde et n'ambitionnait d'autre bonheur que de lui offrir sa main et sa fortune. Tout cela était écrit sur ses lèvres, mais la révérence de Camille, en lui rendant son salut, lui fit comprendre combien tel récit eût été inutile et qu'il lui importait peu de savoir comment il avait fait pour venir chez elle dès l'instant qu'il y était venu. Monsieur de Mowbray, malgré l'espèce d'audace dont il avait fait preuve pour parvenir jusqu'à celle qu'il aimait, était, nous l'avons dit, simple et réservé. Après avoir salué Camille, il cherchait vainement de quelle façon lui est demandé si elle voulait de lui pour époux. Elle ne comprenait rien à ce qu'il tâchait de lui expliquer. Il vit sur la table la planchette où était écrit le nom de Camille. Il prit le morceau de craie et à côté de ce nom, il écrivit le sien, Pierre. « Qu'est-ce que tout cela veut dire ? » cria une grosse voix de basse-taille. « Qu'est-ce que c'est que des rendez-vous pareils ? Mais par où vous êtes-vous introduit ici, monsieur ? Que venez-vous faire dans cette maison ?» C'était l'oncle Giraud qui parlait ainsi, entrant en robe de chambre d'un air furieux. « Voilà une belle chose, » continua-t-il. « Dieu sait que je dormais, et que du moins, si vous avez fait du bruit, c'est pas avec votre langue. Qu'est-ce que c'est que des êtres pareils qui trouvent rien de plus simple que de tout escalader ? Quelle est votre intention ? Abîmer une voiture, briser tout, faire du dégât, et après cela quoi ? Déshonorer une famille ? Jeter l'opprobre et la famille sur d'honnêtes gens ? Oh, celui-là non plus ne m'entend pas encore, s'écria l'oncle Giraud, désolé. Mais le marquis prit un crayon, un morceau de papier, et écrivit cette espèce de lettre. J'aime mademoiselle Camille, je veux l'épouser, j'ai 20 000 livres de rente, voulez-vous me la donner ? « Oh, il n'y a que les gens qui parlent pas, » dit l'oncle Giraud, « pour mener les affaires aussi vite. »« Mais dites donc, » s'écria-t-il après quelques moments de réflexion, « je suis pas son père, je suis que l'oncle. Il faut demander la permission au papa. » Ce n'était pas une chose facile que d'obtenir du chevalier son consentement à un pareil mariage, non qu'il ne fût disposé, comme on l'a vu, à faire tout ce qui était possible pour rendre sa fille moins malheureuse, mais il y avait, dans la circonstance présente, une difficulté presque insurmontable. Il s'agissait d'unir une femme, atteinte d'une horrible infirmité, à un homme frappé de la même disgrâce, et si une telle union devait avoir des fruits, il était probable qu'elle ne ferait commettre quelque infortuné de plus au monde. Le chevalier, retiré dans sa terre, toujours en proie au plus noir chagrin, continuait de vivre dans la solitude. Madame des Arcis avait été enterrée dans le parc, quelques saules pleureurs entouraient sa tombe et annonçaient de loin aux passants la modeste place où elle reposait. C'était vers ce lieu que le chevalier dirigeait tous les jours ses promenades. Là, il passait de longues heures, dévoré de regrets et de tristesse, et se livrant à tous les souvenirs qui pouvaient nourrir sa douleur. Ce fut là que l'oncle Giraud vint le trouver tout à coup un matin. Dès le lendemain du jour où il avait surpris les deux amants ensemble, le bonhomme avait quitté Paris avec sa nièce, avait ramené Camille au Mans et l'avait laissée dans sa propre maison pour y attendre le résultat de la démarche qu'il allait faire. Pierre, averti de ce voyage, avait promis d'être fidèle et de rester prêt à tenir sa parole. Orphelin dès longtemps, maître de sa fortune, n'ayant besoin de que prendre l'avis d'un tuteur, sa volonté n'avait à craindre aucun obstacle. Le bonhomme, de son côté, voulait bien servir de médiateur et tâcher de marier les deux jeunes gens, mais il n'entendait pas que cette première entrevue, qui lui semblait passablement étrange, puisse se renouveler autrement qu'avec la permission du père et du notaire. Au premier mot de l'oncle Giraud, le chevalier montra, comme on le pense, le plus grand étonnement. Lorsque le bonhomme commença à lui raconter cette rencontre à l'opéra, cette scène bizarre et cette proposition plus singulière encore, il eut peine à concevoir qu'un tel roman fût possible. Forcé cependant de reconnaître qu'on lui parlait sérieusement, les objections auxquelles on s'attendait se présentèrent aussitôt à son esprit. « Mais que voulez-vous » dit-il à Giraud. « Unir deux êtres également malheureux ? N'est-ce pas assez d'avoir dans notre famille cette pauvre créature dont je suis le père ? Faut-il encore augmenter notre malheur en lui donnant un mari semblable à elle? Suis-je destiné à me voir entouré d'êtres réprouvés du monde, objet de méprise et de pitié? Et dois-je passer ma vie avec des muets, vieillir au milieu de leur affreux silence, avoir les yeux fermés par leurs mains? Mon nom, oh, dont je ne tire pas vanité, Dieu le sait, mais qui enfin est celui de mon père, dois-je laisser à des infortunés qui ne pourront ni le signer ni le prononcer? Oh, non pas le prononcer, dit Giraud, mais le signer, oh, c'est autre chose. Mais le signer, s'écria le chevalier, êtes-vous privé de raison? Bon, je sais ce que je dis, et ce jeune homme sait écrire, répliqua l'oncle. Je vous témoigne et vous certifie qu'il écrit même fort bien et même très couramment, comme sa proposition que j'ai dans ma poche, et qui est fort honnête, en fait foi. Le bonhomme montra en même temps au chevalier le papier sur lequel le marquis de Beaubray avait tracé le peu de mots qui exposait d'une manière laconique, il est vrai, mais claire, l'objet de sa demande. « Mais que signifie cela ?» dit le père. « Depuis quand les sourds-muets tiennent-ils la plume ? Quel compte me faites-vous, Giraud ?»« Ma foi, dit Giraud, je ne sais pas ce qu'il y en est, ni comment pareille chose peut se faire. La vérité est que mon intention était tout bonnement de distraire Camille et de voir un peu aussi avec elle ce que c'est que les pirouettes. Et ce petit marquis se trouve être là. » Et il est certain qu'il avait une ardoise et un crayon dont il se servait très lestement. J'avais toujours cru, comme vous, que lorsqu'on était muet, c'était pour ne rien dire, mais pas du tout. Il paraît qu'aujourd'hui, on a fait une découverte au moyen de laquelle tout ce monde-là se comprend et fait très bien la conversation. On dit que c'est un abbé, oh non, je ne sais plus le nom, mais qui a inventé ce moyen-là. Quant à moi, vous comprenez bien qu'une ardoise ne m'a jamais paru bonne qu'à mettre sur un toit, mais ces Parisiens, ils sont si fins. Est-ce sérieux ce que vous dites? Oh, très sérieux. Ce petit marquis est riche, joli garçon. C'est un gentilhomme et un galant homme, je réponds de lui. Songez, je vous en prie, à une chose. Que ferez-vous de cette pauvre Camille? Elle ne parle pas, c'est vrai, mais c'est pas de sa faute. Que voulez-vous qu'elle devienne? Elle ne peut pas toujours rester fille. Voilà un homme qui l'aime. Cet homme-là, si vous la lui donnez, ne se dégoûtera jamais d'elle, à cause du défaut qu'elle a au bout de la langue. Il sait ce qui en est par lui-même. Ils se comprennent, ces enfants. Ils s'entendent sans avoir besoin de crier pour cela. Le petit marquis sait lire et écrire. Camille apprendra à en faire autant. Cela ne lui sera pas plus difficile qu'à l'autre. Vous sentez bien que si je vous proposais de marier votre fille à un aveugle, vous auriez le droit de me rire au nez, mais je vous propose un sourd-muet. C'est raisonnable. Vous voyez que depuis 16 ans que vous avez cette petite-là, vous ne vous en êtes jamais bien consolé. Et comment voulez-vous qu'un homme fait comme tout le monde s'en arrange? Si vous qui êtes son père, vous ne pouvez pas en prendre votre parti. Tandis que l'oncle parlait, le chevalier jetait de temps en temps un regard du côté du tombeau de sa femme et semblait réfléchir profondément. Rendre à ma fille l'usage de la pensée, dit-il après un long silence. Dieu le permettrait-il? Est-ce possible? En ce moment, le curé d'un village voisin entrait dans le jardin, venant dîner au château. Le chevalier le salua d'un air distrait, puis, sortant tout à coup de sa rêverie, « L'abbé, lui demanda-t-il, vous savez quelquefois les nouvelles et vous recevez les papiers. » Avez-vous entendu parler d'un prêtre qui a entrepris l'éducation des sourds-muets? Malheureusement, le personnage auquel cette question s'adressait était un véritable curé de campagne de ce temps-là, homme simple et bon, mais fort ignorant, et partageant tous les préjugés d'un siècle où il y en avait tant, et de si funeste. « Oh, je ne sais ce que monseigneur veut dire, » répondit-il, traitant le chevalier en seigneur de village. « Ah, moi qu'il ne soit question de l'abbé de l'épée !»« Précisément, » dit l'oncle Giraud. « Ah, c'est le nom qu'on m'a dit, je m'en souvenais plus. »« Eh bien, » dit le chevalier, « que faut-il en croire ?»« Oh, je ne saurais, » répliqua le curé, « parler avec trop de circonspection d'une matière sur laquelle je ne puis me donner encore pour complètement édifier, mais... je suis fondé à croire, d'après le peu de renseignements qu'il m'a été loisible de recueillir à ce sujet, que ce monsieur de l'épée, qui paraît être d'ailleurs une personne tout à fait vénérable, n'a point atteint le but qu'il s'était proposé. Et qu'entendez-vous par là ? Dit l'oncle Giraud. J'entends, dit le prêtre, que l'intention la plus pure peut quelquefois faillir par le résultat. Il est hors de doute, d'après ce que j'ai pu en apprendre, que les plus louables efforts ont été faits, mais j'ai tout lieu de croire que la prétention d'apprendre à lire au sourd-muet, comme le dit monseigneur, est tout à fait chimérique. « Mais je l'ai vu de mes yeux, » dit Giraud, « j'ai vu un sourd-muet qui écrit. Oh, je suis bien éloigné, » répliqua le curé, « de vouloir vous contredire en aucune façon. » Mais des personnes savantes et distinguées, parmi lesquelles je pourrais même citer des docteurs de la faculté de Paris, m'ont assuré d'une manière péremptoire que la chose était impossible. Mais une chose qu'on voit ne peut pas être impossible, reprit le bonhomme, impatienté. J'ai fait 50 lieues avec un billet dans ma poche pour le montrer au chevalier. Le voilà, c'est clair comme le jour. En parlant ainsi, le vieux maître maçon avait de nouveau tiré son papier et l'avait mis sous les yeux du curé. Celui-ci, à demi étonné, à demi piqué, examina le billet, le retourna, le lut plusieurs fois à haute voix et le rendit à l'oncle, ne sachant trop quoi dire. Le chevalier avait semblé étranger à la discussion. Il continuait de marcher en silence, et son incertitude croissait d'instant en instant. « Si Giraud a raison, pensait-il, et si je refuse, je manque à mon devoir. C'est presque un crime que je commets. Une occasion se présente où cette pauvre fille, à qui je n'ai donné que l'apparence de la vie, trouve une main qui recherche la sienne dans les ténèbres où elle est plongée. Sans sortir de cette nuit qui l'enveloppe pour toujours, elle peut rêver qu'elle est heureuse. De quel droit l'en empêcherais-je? Que dirait sa mère si elle était là? » Les regards du chevalier se reportèrent encore une fois vers le tombeau. Puis il prit le bras de l'oncle Giraud, fit quelques pas à l'écart avec lui, et lui dit d'une voix basse, « Faites ce que vous voudrez. » « À la bonne heure, » dit l'oncle. « Je vais la chercher, je vous l'amène. Elle est chez moi. Nous revenons ensemble. Oh, ce sera fait dans un instant. »« Jamais, » répondit le père. « Tâchons ensemble qu'elle soit heureuse. Non, mais la revoir, je ne le peux pas. » Pierre et Camille furent mariés à l'église, à Paris, à l'église des Petits Pères. Le gouverneur et l'oncle furent les seuls témoins. Lorsque le prêtre officiant leur adressa les formules d'usage, Pierre, qui en avait assez appris pour savoir à quel moment il fallait s'incliner en signe d'assentiment, s'acquitta assez bien d'un rôle qui était pourtant difficile à remplir. Camille n'essaya de rien deviner ni de rien comprendre. Elle regarda son mari et baissa la tête comme lui. Camille devint mère. Un jour que le chevalier faisait sa triste promenade au fond du parc, un domestique lui apporta une lettre écrite d'une main qui lui était inconnue et où se trouvait un singulier mélange d'instruction et d'ignorance. Elle venait de Camille et renfermait ce qui suit. « Ô mon père, je parle non pas avec ma bouche, mais avec ma main. Mes pauvres lèvres sont toujours fermées, et cependant je sais parler. Celui qui est mon maître m'a appris à pouvoir vous écrire. Il m'a fait enseigner, comme pour lui, par la même personne qui l'avait élevé, car vous savez qu'il est resté comme moi très longtemps. J'ai eu beaucoup de peine à apprendre. » Ce qu'on enseigne d'abord, c'est de parler avec les doigts. Ensuite, on apprend des figures écrites. Mais il y en a de toutes sortes qui expriment la peur, la colère et tout en général. On est très long à connaître tout et encore plus à mettre des mots à cause des figures qui ne sont pas la même chose, mais enfin, on en vient à bout, comme vous voyez. L'abbé de l'épée est un homme très bon et très doux, de même que le père Vanin, de la doctrine chrétienne. J'ai un enfant qui est très beau. Je n'osais pas vous en parler avant de savoir s'il sera comme nous. Mais je n'ai pu résister au plaisir que j'ai à vous écrire, malgré notre peine, car vous pensez bien que mon mari et moi nous sommes très inquiets, surtout parce que nous ne pouvons pas entendre. La bonne peut bien entendre, mais nous avons peur qu'elle ne se trompe. Ainsi, nous attendons avec une grande impatience de voir s'il ouvrira les lèvres et s'il les remuera avec le bruit des entendants parlant. Vous pensez bien que nous avons consulté des médecins pour savoir s'il est possible que l'enfant de deux personnes aussi malheureuses que nous ne soit pas muette aussi. Et nous ont bien dit que cela se pouvait, mais nous n'osons pas le croire. Jugez avec quelle crainte nous regardons ce pauvre enfant depuis longtemps. Et comme nous sommes embarrassés lorsqu'il ouvre ses petites lèvres et que nous ne pouvons pas savoir si elles font du bruit. Soyez sûr, mon père, que je pense bien à ma mère, car elle a dû s'inquiéter comme moi. Vous l'avez bien aimée, comme moi aussi j'aime mon enfant, mais je n'ai été pour vous qu'un sujet de chagrin. Maintenant que je sais lire et écrire, je comprends combien ma mère a dû souffrir. Si vous étiez tout à fait bon pour moi, cher père, vous viendriez nous voir à Paris. Ce serait un sujet de joie et de reconnaissance pour votre fille respectueuse, Camille. » Après avoir lu cette lettre, le chevalier hésita longtemps. Il avait eu d'abord peine à s'en fier à ses yeux et à croire que c'était Camille elle-même qui lui avait écrit. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Qu'allait-il faire? S'il cédait à sa fille et s'il allait en effet à Paris, il s'exposait à retrouver, dans une douleur nouvelle, tous les souvenirs d'une ancienne douleur. Un enfant qu'il ne connaissait pas, il est vrai, mais qu'il n'en était pas moins le fils de sa fille, pouvait lui rendre les chagrins du passé. Camille pouvait lui rappeler Cécile. Cependant, il ne pouvait s'empêcher en même temps de partager l'inquiétude de cette jeune mère attendant une parole de son enfant. « Il faut y aller !» dit l'oncle Giraud, quand le chevalier le consulta. « C'est moi qui ai fait ce mariage-là, et je le tiens pour bon et durable. Voulez-vous laisser votre sang dans la peine? N'en est-ce pas assez, ou soit dit sans reproche? D'avoir oublié votre femme au bal, voyant quoi elle est tombée à l'eau? Oubliez-vous aussi cette petite? Pensez-vous que ce soit tout d'être triste? Vous l'êtes, j'en conviens, et même plus que de raison. » Mais croyez-vous qu'on n'ait pas autre chose à faire au monde? Elle vous demande de venir, alors partons. Je vais avec vous, et je n'ai qu'un regret, c'est qu'elle ne m'ait pas appelé aussi. Il n'est pas bien de sa part de n'avoir pas frappé à ma porte, moi qui lui ai toujours ouvert. Il a raison, pensait le chevalier. J'ai fait inutilement et cruellement souffrir la meilleure des femmes. Je l'ai laissé mourir d'une mort affreuse, quand j'aurais dû l'en préserver. Si je dois en être puni aujourd'hui par le spectacle du malheur de ma fille, je ne saurais m'en plaindre. Quelque pénible que soit pour moi ce spectacle, je dois m'y résoudre et m'y condamner. Ce châtiment m'est dû. Que la fille me punisse d'avoir abandonné la mère. J'irai à Paris. Je verrai cet enfant. J'ai délaissé ce que j'aimais. Je me suis éloigné du malheur. Je veux prendre maintenant un amer plaisir à le contempler. Dans un joli boudoir boisé à l'entresol d'un bon hôtel situé dans le faubourg Saint-Germain, se tenaient la jeune femme et son mari lorsque le père et l'oncle arrivèrent. Sur une table étaient des dessins, des livres, des gravures. Le mari lisait et la femme brodait. L'enfant jouait sur le tapis. Le marquis s'était levé. Camille courut à son père, qui l'embrassa tendrement et ne put retenir quelques larmes. Mais les regards du chevalier se reportèrent aussitôt sur l'enfant. Malgré lui, l'horreur qu'il avait eue autrefois pour l'infirmité de Camille reprenait place dans son cœur à la vue de cet être qui avait hérité de la malédiction qu'il lui avait léguée. Il recula lorsqu'on le lui présenta. Encore un muet, s'écria-t-il. Camille prit son fils dans ses bras. Sans entendre, elle avait compris. Soulevant doucement l'enfant devant le chevalier, elle posa son doigt sur ses petites lèvres en les frottant un peu comme pour l'inviter à parler. L'enfant se fit prier quelques minutes, puis prononça bien distinctement ces deux mots que la mère lui avait fait apprendre d'avance. « Bonjour, papa !»« Eh, vous voyez bien que Dieu pardonne tout et toujours !» dit l'oncle Giraud. Fin de Pierre et Camille.